les enfants parlent encore à maman et papa, et là où les tantes qui ont déjà existé sont toujours à la table au réveillon de Noël, mais aussitôt que quelqu'un manque à la table, ils sont, on se dit, mais où sont-ils? Que ce soit un réveillon de Noël ou que ce soit une noce, ceux qui ne sont pas présents sont aussi. Dans le texte que nous avons lu, voulait faire du bien. Je pense que si nous prenons le texte qui est devant nous et que nous lançons le défi de David à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se pose la question suivante. Est-ce que moi, je veux être comme David et faire du bien? On se dit, oui, mais oui, je suis chrétien, je veux faire du bien. Mais David voulait faire du bien au petit-fils de son pire ennemi. Alors, je vous repose la question dans une terminologie un peu différente. Est-ce que vous, ce matin, vous voulez faire du bien à quelqu'un qui pourrait être votre pire ennemi? Ah! Maintenant, ce n'est plus aussi facile, n'est-ce pas? David voulait faire du bien à la famille de Saül, son pire ennemi. Et il a insisté que Mephibosheth puisse manger à sa table royale. Wow! C'est quelque chose de remarquable que David nous donne comme exemple. 4 fois, il est dit que Mephibosheth mangera toujours à la table de David. David voulait faire du bien et exercer la bonté de Dieu envers quelqu'un. J'aimerais que chacun de nous, spécialement pour cette période de Noël, que nous puissions prendre le défi de David. C'est-à-dire, Seigneur, mets dans mon cœur le désir de faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite peut-être pas, pour que je puisse démontrer la bonté de Dieu. Nous avons tous ce privilège dans nos vies, dans notre église, parmi nos voisins, dans notre milieu de travail, de démontrer la bonté de Dieu et de faire du bien envers ceux qui ne le méritent même pas. C'est un grand défi que je vous propose ce matin. Alors, qui manque à la table? Qui n'a pas encore bénéficié de la bonté de Dieu? Voulons-nous, ce matin, être cette personne qui veut développer, dans notre propre cœur, un ministère de faire du bien pour démontrer la bonté de Dieu? Ah, vous savez, les amis, dans Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, le Seigneur nous a donné une direction très claire. N'est-ce pas? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a donné ses instructions à qui? À ses enfants, n'est-ce pas? Et il a dit, je reviens. Moi, je me rappelle, parce que maintenant, je suis rendu grand-papa. Mais je me rappelle quand mes enfants étaient dans leur jeunesse. Vous savez, vous qui êtes peut-être dans cette période de vie, là où les parents, papa a décidé de sortir avec maman pour une sortie d'amoureux. Et les enfants étaient maintenant assez vieux pour rester à la maison toute seule. Vous vous rappelez de la première fois que vous avez laissé vos enfants à la maison pour la première fois de votre vie en tant que parent? Moi, avec Mme Linda, j'avais un défi. Parce que je lui avais dit, « Moi, là, je te gage que ça va être toi qui vas me parler d'un enfant avant moi. » Alors, en tant que parent, on donne nos instructions très claires à nos enfants. Et j'ai dit à mes 4 enfants, « Là, maman et papa s'en vont, là, on va avoir un bon temps ensemble. » Si quelqu'un frappe à la porte, Tu l'ignores, tu fais le mort. Si le téléphone sonne, tu réponds pas. Puis pour l'amour de Dieu, ne vous chicanez pas. Ça, c'était des instructions très claires. Qu'une famille normale, que des parents normaux vont donner à leurs enfants, n'est-ce pas? Nous sommes revenus à la maison pour notre première sortie. Ma fille, la plus jeune, dit « Papa! Mon frère a voulu commencer un feu dans la fournaise avec du gaz! » Alors moi, j'ai paniqué. Je m'en vais dans le sous-sol, je vais voir ma fournaise parce qu'on chauffe au bois. La porte était tordue. La cheminée sur le poêle était crochée. Et je bénissais le nom du Seigneur parce que la maison n'avait pas brûlé, mais j'étais en motel dit après mon fils. Pourtant, j'avais laissé des instructions claires. N'est-ce pas? Mais nous, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a laissé des instructions claires, n'est-ce pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, je suis avec vous tous les jours de votre vie, n'est-ce pas? Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a quelle responsabilité face à ces instructions? Une seule, obéissance, n'est-ce pas? Quelle était la responsabilité de mes enfants? Bien, c'était d'écouter les instructions de papa et maman, n'est-ce pas? Bien, gloire à Dieu, aujourd'hui, ils sont encore en vie, ils sont mariés, puis j'ai des petits-enfants. Mais c'est pas facile d'élever des enfants, spécialement s'ils se rebellent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que ça peut nous arriver qu'on se rebelle contre les instructions que Dieu nous a données clairement? Je vous suggère que parfois ça nous arrive. Alors, les instructions étaient claires ici dans Matthieu 28. Vous voyez, vous êtes seulement une personne dans ce grand monde. Mais vous êtes une personne avec un message qui peut changer la vie d'une personne perdue. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous êtes qui, vous? Bien, vous êtes une personne, mais vous êtes une personne avec un message qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre. C'est tout un pouvoir, les amis. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses dans une église tout en manquant les instructions claires de Jésus d'aller et de faire des disciples. Nous devons développer une vision internationale, nous devons développer une vision nationale, nous devons développer une vision provinciale et nous devons développer une vision locale de qui manque à la table. J'aimerais vous suggérer ce matin que même dans le contexte de cette très belle église pour la gloire de Dieu, quand je regarde, il manque des personnes à la table du Seigneur. Il reste encore de la place. Vous voyez, le bon berger avait cette vision. C'est pourquoi il est allé chercher les brebis perdues, la brebis perdue. Un fardeau pour les âmes commence par un désir de vouloir faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Mephibosheth ne méritait pas la bonté de David car il était le petit-fils du pire ennemi de David. Vous savez, dans notre génération de chrétienté, nous avons tendance de donner l'évangile juste à ceux qui veulent bien nous écouter. Et aussitôt que nous avons un peu de résistance, nous reculons de quelques pas. Mais David insistait en démontrant la bonté de Dieu envers cet homme, Mephibosheth. De démontrer la bonté de Dieu envers quelqu'un ne prendra qu'un moment de votre vie, mais ça pourrait changer la vie de quelqu'un pour toujours. Relevez le défi de David, c'est ce que je vous encourage de considérer ce matin. Seigneur, mets sur mon cœur pas sur le cœur de la personne qui est à côté de moi, mais Seigneur, mets sur mon cœur quelqu'un envers qui je peux démontrer ta bonté et que je pourrai partager le message de ta parole. Ça, c'est une belle prière pour chacun de nous. Si nous sommes sérieux et que nous voulons vraiment montrer la bonté de Dieu aux gens, nous ne devons pas les mépriser. Il y a beaucoup de mépris aujourd'hui. Oui, on a des lois. Mais les lois n'empêchent pas les personnes de mépriser quelqu'un d'autre qui n'est pas pareil comme toi ou selon la norme à laquelle on s'attend. Et vous avez probablement été exposé à un certain moment dans votre vie à un mépris quelconque. Mephibosheth a été grandement méprisé. Et vous avez lu avec moi le texte biblique. Mephibosheth était un boiteux. Imaginez-vous, pour quelques moments seulement, et mettez les sandales de Mephibosheth, et vous êtes reconnu par votre handicap, ou la couleur de votre peau, plutôt que par votre nom. Oh! Tishla méprisait tellement Mephibosheth, il le connaissait par nom, mais il n'a jamais osé le nommer devant David. Il a dit, « Ouais, c'est un perclus des pieds. » C'est un bon rien. Les pieds tout croches. Ça tient pas de bout. C'est tellement facile de mépriser quelqu'un pour leur handicap plutôt que de voir leur valeur. Pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose que ce soit peu importe que nous méprisons, que ce soit la prostituée à Montréal, que ce soit le souillon qui se promène sur la ligne jaune et nous conduisons. Mais vas-tu se tasser, l'imbécile? Mais l'imbécile a besoin de passer de l'imbécile à être assis à la table du roi des rois, bien-aimé. Ainsi que la prostituée. Peut-être, le Seigneur vous a choisi comme une personne clé qui va démontrer la bonté de Dieu à quelqu'un qui a été grandement méprisé par notre société. N'oubliez jamais le mauvais exemple que Tishla nous démontre ici. Il aurait pu tout simplement dire à David, « Ben David, oui, je connais le petit-fils de David. » c'est-à-dire de Saül, et son nom c'est Mephibosheth. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, puis je veux qu'on prenne le temps de regarder à 2 Samuel chapitre 4, 2 Samuel chapitre 4 et le verset 4. Parce que parfois, on a besoin de comprendre la raison pour laquelle certains individus dans notre société sont méprisés. Et ceci est venu me chercher au plus profond de mon cœur et de mes entrailles. 2 Samuel chapitre 4, verset 4, nous lisons ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. C'est très important ce que je vais vous dire ici. Mephibosheth était âgé de 5 ans. À la nouvelle que son grand-père et que son père ont été tués à la guerre, la nourrice qui était en charge de ce jeune homme de 5 ans s'est sauvée pour sa vie. Elle voulait bien faire. Mais dans sa fuite, elle a échappé le jeune homme, ce qui lui a causé d'être perclus des pieds pendant le restant de ses jours. Écoutez bien ceci. Il y a encore des gens dans notre société aujourd'hui qui ont été brisés dans leur enfance et qui sont toujours brisés en tant qu'adultes. Et ces gens ont besoin que quelqu'un comme vous et moi pouvons démontrer la bonté de Dieu, parce que sans ça, ils ne la connaîtront jamais. Bien-aimés, peut-être ce matin, y a-t-il quelqu'un ici qui a été brisé dans son enfance et qu'en tant qu'adulte, vous êtes encore brisé? C'est le temps de répondre positivement à l'invitation et de venir à la table du roi des rois pour être guéri. Ah, bien-aimés, brisé dans son enfance, brisé en tant qu'adulte. Connaissez-vous des enfants qui ont été brisés, des enfants qui ont été abusés, des enfants qui ont été maltraités, négligés, réfugiés de génocide dans leur enfance et qui sont toujours brisés dans leur vie d'adulte? Ça existe, mes amis. Et peut-être qu'un jour, vous allez les rencontrer dans les rues de Montréal. Et c'est vous que le Seigneur va avoir choisi pour leur montrer la bonté de Dieu. Et c'est vous que le Seigneur va avoir choisi pour les inviter de se relever de face contre terre en humiliation, à être placés à la table royale. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire pour ces gens qui ont tellement besoin d'entendre le message de l'évangélisation que Christ sauve. Nous voulons que ces gens qui se sentent comme un chien mort parce qu'ils ont tellement été dévalorisés par la société et par ceux qui les entourent, que pour eux, ils sont un bon rien. Ils n'ont qu'une valeur de chien mort. Ah. Pensez-vous pas qu'ils ont besoin d'entendre que quelqu'un leur parle de la bonté de Dieu? Oh, bien-aimés, Jésus a invité les boiteux, les estropiés et les malades de venir à son festin. Dans Luc 14, il nous a dit au verset 21, le maître de la maison a dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Qui manque encore à la table? » La table du roi des rois. Bien-aimés, une autre chose qui est importante pour nous de réaliser, c'est que si nous voulons que Dieu travaille en nous pour démontrer la bonté de Dieu, nous ne pouvons pas faire ceci avec une face comme si nous avons été baptisés dans le jus de citron. Savez-vous que ça existe, des chrétiens? On dirait qu'ils ont été baptisés dans le jus de citron tellement... Oh, 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 oh! Tu me parles de Dieu? Ouais, tu parles de Dieu! Mais dans leur vie tous les jours, c'est des bougonneux! Vous connaissez l'expression? C'est bizarre d'un chrétien bougonneux, là. Il a peut-être besoin de se faire rebaptiser dans l'eau. Moi, il y a une chose qui m'a impressionné de l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Il a dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Savez-vous quelque chose? La patience, là, c'est pas commun pour les Québécois. Moi, je suis un beau son, on n'est vraiment pas reconnu pour notre patience. Le Seigneur m'a appelé dans l'implantation de l'Église à La Chute. En 1994, un de mes premiers contacts. Je reçois un appel un dimanche soir, c'était une dame. Elle me dit « Mon mari est dans son lit, dans la chambre arrière, et il aimerait voir un pasteur baptiste. Est-ce que vous êtes un pasteur baptiste? » Ça avait été annoncé dans une nouvelle, dans le journal local, alors je ne pouvais pas le nier. Oui, je suis un pasteur baptiste. Mais moi, j'avais un problème maintenant, parce que c'était une femme qui m'avait appelé. Vous savez, en tant que ministre de l'Évangile, on doit s'entourer de précautions. Les enfants étaient jeunes, ma femme était à la maison, et je me dis, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu ça dans les nouvelles, puis qui va salir ma réputation dès le départ? Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Linda, je vais aller voir. S'il y a quelqu'un d'autre là, je rentre. Sinon, je reviens à la maison. Alors j'arrive à l'adresse qu'on m'avait donnée. Il y avait 8-10 personnes. Ah, OK, c'est beau. Fait que je cogne à la porte, la dame ouvre, elle dit, est-ce que vous êtes un pasteur baptiste? Vous voyez. Alors oui, OK, rentrez, mon mari dans la chambre arrière. OK? Alors j'enlève mes souliers, je m'en vais avec ma Bible, je cogne à la porte de chambre. Le monsieur avait les deux bras sous les couvertes, les couvertures étaient jusque sur son dos. Il dit, entrez, alors j'entre. Et maintenant, il sort une de ses mains de sous les couvertes et il avait un pistolet chargé. Et il me dit, est-ce que tu es un pasteur baptiste? J'ai pensé peut-être que je devrais être porte-côtiste aujourd'hui. Mais j'ai dit non, ça a été annoncé dans les nouvelles. Oui, je suis un pasteur baptiste. Alors il a dit, qu'est-ce que tu peux me dire dans ton petit livre que tu tiens dans ta main? Pour que je n'ai pas besoin d'utiliser ça sur moi aujourd'hui. Alors j'ai dit, André, est-ce qu'on peut mettre le revolver de côté, sur la table de nuit? Et j'ai bien des choses à te dire dans ce petit livre. C'est exactement ce qu'on a fait. Environ une semaine plus tard, André a été admis à l'hôpital de Montréal pour une opération à cœur ouvert et les médecins lui ont donné 10 ans. Et qu'est-ce qui l'a impressionné, cet homme? Ce n'est pas qu'un pasteur baptiste est venu visiter chez lui, c'est plutôt qu'un pasteur baptiste a fait le chemin entre La Chute et Montréal pour aller le visiter sur son lit de récupération. Alors, nous avons eu des entretiens à travers les années pendant 12 ans! Mais je ne suis pas un gars patient. Et après 12 ans, j'ai perdu patience. Ouais, ça arrive à des pasteurs de perdre patience. J'ai dit, André, tu devrais avoir honte. Là, on est en train de déjeuner, on est dans un restaurant. Il dit, André, tu devrais avoir honte. Mais il dit, pourquoi? Il dit, c'est parce que tu craches dans la face de Dieu. Il dit, voilà, 12 ans, tu m'as demandé où était la vérité. Je te l'ai expliqué presque à chaque fois on se rencontre, puis je t'en explique d'autres et d'autres et d'autres. Tu as tout essayé dans ta vie. Et lui, c'était un frère maçon du 29e degré. Alors j'ai dit, les médecins t'ont donné 10 ans, tu as eu 10 ans pour trouver la vérité que j'ai essayé de t'expliquer. Puis maintenant, tu en as même eu 12. Puis tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends? Une semaine plus tard, il a accepté le Seigneur. Peut-être un mois plus tard, on l'a baptisé. Et 6 mois plus tard, j'ai eu cette miracle. Mais, Seigneur, je prie continuellement qu'il m'accorde la patience. Parce que nous, on aimerait bien sûr que l'évangélisation soit comme du café instantané. Tu mets ça dans la tasse, tu prends un petit peu de lait ou de crème, et vite, c'est vrai à boire. Mais le message de l'évangile, c'est pas mal plus un percolateur qu'un café instantané. Alors l'apôtre Paul nous encourage d'avoir de l'humilité, de la douceur, de la miséricorde, de la patience. Le bon samaritain a certainement exercé la bonté de Dieu en toute humilité. Je veux vous expliquer ce matin ce qui arrive lorsque vous choisissez d'exercer la bonté de Dieu envers quelqu'un. Je vous donne un exemple biblique. D'accord? Vous vous rappelez de l'histoire romantique, merveilleuse de la femme Ruth. Ruth qui qui avait été jusqu'en Israël avec sa belle-mère, parce que son mari était décédé, et qui glanait dans les champs, et qui a été remarqué par Boaz. Oh! Quelle belle histoire d'amour! Boaz a choisi de démontrer la bonté de Dieu envers Ruth. Ils se sont mariés et ils ont eu un petit bébé par le nom de Obed. Obed, en grandissant, s'est marié, a eu un enfant qui s'appelle Issa. Issa a eu David. David a démontré la bonté de Dieu. Vous voyez comment ça se transfère d'une génération à l'autre? Mais vous savez que c'est encore plus beau, c'est que vous allez dans le livre de Matthieu et 42 générations plus tard, vous avez la bonté de Dieu incarnée qui nous vient de David par le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucune idée comment loin, si vous choisissez d'exercer la bonté de Dieu, comment ceci pourrait se reproduire à travers plusieurs et plusieurs et plusieurs générations. Oh, bien-aimés, même aujourd'hui, nous bénéficions de la bonté incarnée de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Le tout a commencé dans une belle histoire d'amour, Ruth et Boaz, et ça a été continué par David. Et ainsi de suite. David avait tous les pouvoirs comme roi d'être cruel envers la postérité de son ennemi Saül. Mais il a choisi de pratiquer la bonté envers Mephibosheth à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Même si Jonathan était mort, la promesse demeurait vivante et efficace envers Mephibosheth. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Il nous aime quand nous sommes boiteux, misérables, et lorsque nous avons la valeur d'un chien mort aux yeux de la société. Et c'est son amour qui nous place à sa table royale. Je veux que vous remarquiez la phrase suivante. Dieu nous aime tellement qu'il va venir nous chercher là où nous sommes et il ne permettra pas que nous restions là où il nous a trouvés. Ça, c'est le bon Dieu, celui qui exerce sa bonté envers chacun de nous. Permettez-moi de répéter, Dieu nous aime tellement qu'il va venir nous chercher là où nous sommes et il ne permettra pas que nous restions là où il nous a trouvés. Reste-t-il encore quelqu'un qui a besoin de bénéficier de la bonté de Dieu? La réponse est simple, la réponse est oui. Maintenant, qui va leur montrer la bonté de Dieu? Il y a des personnes qui sont encore remplies de colère. Il y a des personnes qui sont peut-être en deuil. Des personnes qui sont sans espoir. Des personnes qui sont suicidaires. Des personnes qui sont destituées. Des personnes qui sont remplies de honte. Toutes ces personnes ont besoin que quelqu'un leur démontre la bonté de Dieu. Oh, vous savez, la société avait été tellement cruelle envers Mephibosheth qu'il pensait qu'il n'avait pas plus de valeur qu'un chien mort. Mais vous savez, un chien du temps de Mephibosheth, c'est pas tout à fait un chien de nos jours à Montréal. Aujourd'hui, les chiens ont des docteurs. On l'appelle ça des vétérinaires. Aujourd'hui, on a des pilules si les chiens ont des cancers. Aujourd'hui, on a des couches si les chiens sont incontinents. Moi, je viens de la ferme. J'ai une opinion différente. Puis moi, j'ai même vu des petites madames âgées qui vont prendre leur petite balade avec leur tout petit caliche et puis ils ont décidé de tricoter une espèce de petit gilet pour leur quadrupède, puis ils se promènent dans la rue avec ça. Moi, là, j'aurais voulu être un chien mort au lieu de me faire promener comme ça. Mais du temps de Mephibosheth, un chien, c'était un chien. Puis un chien mort, c'était pire que mort. C'était un vaurien. Pouvez-vous vous imaginer, du jour au lendemain, d'avoir été élevé de face contre terre, valeur de chien mort, à la table royale pour toujours à Jérusalem? Hey, ça c'est de la bonté. Bien-aimé, c'est le message que nous devons communiquer aujourd'hui à tous ceux qui nous entourent. Les gens n'ont pas besoin de rester dans leurs conditions honteuses. Les gens n'ont pas besoin de rester dans leur situation de mépris. Ils peuvent être relevés par la bonté de Dieu si seulement nous choisissons de démontrer la bonté de Dieu envers ceux qui nous entourent. Bien-aimé, ta condition présente n'a pas besoin d'être ta conclusion finale. Vous voyez, Abraham avait une condition, mais ce n'était pas sa conclusion. Il était menteur, mais Dieu lui a permis de devenir le père de plusieurs nations. Noé avait une condition, mais ce n'était pas sa conclusion. Il était un ivrogne, mais Dieu lui a permis de construire un bateau qui a sauvé la race humaine. Moïse avait une condition, mais ce n'était pas sa conclusion. Il bégayait. Mais Dieu lui a permis de prêcher à Pharaon et de fendre la main rouge. Élie avait une condition, mais ce n'était pas sa conclusion. Il était suicidaire, mais Dieu lui a permis de faire descendre le feu et la pluie du ciel. Pierre avait une condition, mais ce n'était pas sa conclusion. Il était tellement en colère qu'il a coupé l'oreille d'un serviteur, mais Dieu lui a permis de prêcher un sermon et 3000 personnes se sont converties. Bien aimé, écoutez bien. Il y a deux décisions que j'aimerais que vous puissiez prendre aujourd'hui. La première est celle-ci. En tant que prédicateur invité, je ne sais jamais à qui je m'adresse. Alors je m'adresse à vous ainsi ce matin. Si tu as été un de ces enfants qui a été brisé et qui est toujours brisé en tant qu'adulte, aujourd'hui je veux te donner la possibilité d'être relevé parce que ta condition initiale n'a pas besoin d'être ta conclusion. Et je veux t'inviter à te lever pour venir t'asseoir à la table du roi des rois. Mais j'ai une deuxième décision pour vous. J'aimerais que vous puissiez considérer le message que vous avez entendu ce matin et que vous puissiez prier comme d'ordre. Seigneur, reste-t-il encore quelqu'un envers qui je pourrais montrer ta bonté pour lui faire du bien? Chacun de nous qui est croyant devrait prier cette prière. Si vous agissez ainsi, je suis persuadé que cette salle va se remplir parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de voir la bonté de Dieu en action. Le Seigneur vous a choisi. Alors que le Seigneur vous accompagne.
Amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Levons-nous pour la fin.
Jésus, nous maître, règne sur moi.